1, 2, 3,
salut les amis, ici c'est Brut. Alors Brut, qu'est-ce que c'est? C'est une association étudiante. Le fil. C'est une association étudiante de l'UTC qui propose différents formats médiatiques, rien que pour toi, pour t'informer et pour te divertir. Donc on parle à la fois d'Erasmus.
Ok. Salut les amis, vous êtes sur Brut, j'espère que vous ça va, nous on est tous en forme ici. Alors Brut c'est quoi? C'est une association étudiante de l'UTC qui propose différents formats médiatiques, rien que pour toi, pour t'informer et te divertir. Tu peux nous rejoindre sur Facebook ou Instagram en cherchant notre petit nom Brut UTC. On propose différents contenus sur l'Erasmus, sur les virages de cursus. Et c'est sur toutes les trajectoires de vie un peu particulières. Donc aujourd'hui, on va parler de la filière MP, donc Management de Projets Innovants, et des étudiants entrepreneurs. Donc on a avec nous Charles.
Bonjour à tous.
C'est un plaisir de t'avoir, Charles. On a aussi Rodolphe.
Salut, salut tout le monde.
Et on a Antoine qui va nous proposer une petite chronique.
Salut. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. On est vendredi aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez fait lundi? Non. Ouais. Non, vous savez pas, mais vous avez remarqué, on est toujours là quelques jours avant...
Il me semble quand même que lundi, c'était férié, non?
Eh oui, effectivement, Rodolphe. Lundi, c'était le lundi de Pâques, donc on fêtait la résurrection du Christ, rien que ça. Bref, c'était férié et c'était une vraie respiration dans la semaine. Quand l'année est bien entamée, l'emploi du temps bien tassé, tout organisé au moins 2 semaines en avance, on planifie chaque événement à fond, surtout en temps de Covid, où tout doit être très carré, pas plus de 6 personnes en même temps, en extérieur, avec des masques, mais de couleurs toutes différentes, mais pas de rouge, hein, et surtout ne pas déborder après 19h. Ah merde, confiné, bon, on doit reporter à dans un mois, enfin, si le gouvernement le veut bien. Bref, avec tout ça, auquel s'ajoute tout le travail qui déborde sur les week-ends, on finit par ne pas avoir le temps de tout finir. Et un lundi de Pâques, ça tombe à pic pour se faire plaisir. Le mieux, c'est qu'on n'a rien demandé. Il est arrivé tout seul, cimère le Christ d'être mort, puis de nouveau vivant, ça nous régale. Le Christ nous amène aussi Noël, parce qu'il est né. C'est franchement sympa. Après, c'est surtout pas mal pour lui, parce que son anniversaire est toujours férié, donc il peut toujours le fêter avec ses potes, sans avoir à se poser, à poser un jour de congé. Plutôt pratique. Et puis, comme on planifie moins Pâques que Noël, pas de sapin, pas de cadeaux, pas de bûches, quelques œufs, un peu d'agneau pour ceux qui aiment et c'est plié, le lundi de Pâques arrive sans qu'on y pense vraiment. Et ça, c'est vraiment super, parce qu'on n'a pas pensé à l'ajouter à notre agenda. Donc même si le travail déborde sur le week-end, le lundi on se réveille et hop, il n'y a rien à faire, juste du temps pour profiter de la vie. De mon côté, j'en ai profité pour faire des gaufres. Vous savez, les liégeoises là, qui sont bien moelleuses avec des grains de sucre dedans. Je les préfère, celles-là, aux gaufres de Bruxelles, les fines et craquantes, qui sont bonnes aussi, mais elles sont moins gourmandes, moins réconfortantes. Et puis au-delà des gaufres, il y a tout un panel de choses à faire. En fait, c'est quoi le lundi de Pâques? C'est un événement de spontanéité. On y fait ce qu'on veut faire au moment présent. Pas de plan, pas d'objectif, pas de stress. Donc on peut faire ce que bon nous semble. La spontanéité, c'est vivre sans artifice. C'est manger une tartine de plus au goûter. C'est se jeter sur sa coloc et lui faire des chatouilles. C'est dire n'importe quoi à la radio. N'importe quoi à la radio. Brocoli, Carcassonne, crotte de biquette et saperlipopette. Vous savez ce qu'il y a d'encore mieux que le lundi de Pâques? Et bien, d'encore mieux que le lundi de Pâques, il y a le jeudi de l'Ascension, le 13 mai, et le lundi de la Pentecôte, le 24 mai, que vous allez avoir tout le temps d'oublier d'ici là. Et ça, c'est parfait. Pas de plan, que du bon temps et de la spontanéité. Car comme le dirait ma coloc, après s'être fait chatouiller, la spontanéité, c'est la fête à la grenouille. On ne boit pas de soupe à la grimace.
Génial, merci Antoine.
Super cette chronique, vraiment.
Merci Rodolphe.
On a tous profité de notre lundi de Pâques, vraiment comme tu nous l'as dit, quoi.
Personnellement, j'ai fait une petite chasse aux œufs, ça m'a fait retomber en enfance. Je sais pas ce que vous avez fait, vous.
Mais j'adore ça aussi.
Moi, j'attendais les gaufres, mais elles sont jamais arrivées.
Ok, les amis, on va revenir juste après cette petite pause musicale avec Charles qui va nous parler du statut entrepreneur et de la filière MPI. Donc, restez connectés avec nous.
Many in uniform to carry home, my little soldier.
What could he do?
Donc nous voilà de retour sur Bruit. J'espère que vous avez aimé cette musique de Kate Bush que j'ai choisie pour vous, tout simplement parce que c'est une artiste géniale qui a composé elle-même ses musiques et qui les a écrites et qui à l'époque a fait une révolution. Donc une femme que j'admire et que je vous ai présentée.
Ah, merci.
Et du coup, passons maintenant à notre invité Charles. Comment vas-tu, Charles ?
Bah super, et toi ? Et vous, pardon ?
on est ravis de t'accueillir sur le studio avec l'émission Bruit pour que tu nous parles un petit peu de ton projet et de ce que tu fais à l'UTC.
Bah, je suis ravi d'être là aussi, du coup. Et bah, je vais me présenter rapidement, alors, si vous voulez.
Oui.
Ok, bah super.
Merci.
Bah, en fait, je suis étudiant, donc j'ai intégré l'UTC en branche, donc en mécanique, en génie mécanique. Je sais que l'UTC fait une prépa intégrée, mais j'ai fait une prépa à Lille, donc une prépa classique, PCSI, donc physique, sciences de l'ingénieur, et une deuxième année en physique, sciences de l'ingénieur. Puis je suis arrivé à l'UTC, donc en branche, en génie mécanique, en ingénierie mécanique maintenant, pardon. Et en fait, c'était un peu un changement parce que pendant toute la prépa, on nous rabâche des trucs assez théoriques sur comment les moteurs fonctionnent, comment l'électromagnétisme fonctionne, ou des choses assez abstraites. Et on n'apporte pas forcément les qualités humaines qu'il y a derrière le métier d'ingénieur, mais surtout les connaissances scientifiques qu'il y a. Et donc, quand je suis arrivé à l'UTC, j'ai reçu un mail un jour, une sorte de pub. C'était genre, venez voir le hackathon du week-end, ça dure un week-end, c'est vraiment une expérience inouïe. Et je me suis dit, bah, tiens, j'ai rien à faire ce week-end-là, on va tenter, ça, je suis curieux. Et c'est là donc que j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation, etc. En fait, donc l'UTC a organisé son premier créathon UTC, ils appellent ça, donc c'est pendant un week-end. Ils travaillent à fond sur... Il y a plusieurs équipes, et chaque équipe travaille à fond sur un domaine. Le domaine de ce week-end, c'était sur comment améliorer la gestion des territoires agricoles, je crois. Et d'un terme général, juste la gestion des territoires, des déchets, de l'environnement. Et donc, moi, je m'étais dit, je voulais travailler sur le tri des déchets, qui était une question assez problématique. Et j'ai un ami aussi, on avait tous les deux une idée assez construite. Moi, je voulais créer un système de poubelles tout autonome qui relie tous les bâtiments ensemble. Lui, il voulait créer un compost. Et en fait, on n'avait pas assez de succès l'un indépendamment de l'autre. Donc on a décidé de fusionner. Et grâce à cette fusion, on a remporté ce week-end-là. Donc c'était un concours. Et on a gagné le droit donc, de continuer. On a réussi à avoir des fonds et finalement on a développé le projet. Et fur et à mesure, je me suis développé un goût pour l'entrepreneuriat, pour l'innovation. Et j'ai découvert d'autres formations comme les Entreps, les Entrepreneuriales Picardie, qui est donc une formation, un accompagnement de 6 mois plutôt pour la création d'entreprise, pour la création, plutôt pour la définition, formalisation de l'idée du projet. Parce qu'il faut bien en gros discerner la création d'entreprise. Donc c'est quand on a déjà l'idée, quand on a déjà les données, donc comment ça va fonctionner l'idée, le projet, comment on va le vendre, quel partenaire on a, etc. Et juste avant tout ça, ce qu'on ne pense pas forcément, c'est justement comment on met en place ça. Entre guillemets, une idée, ça ne vient pas en claquant des doigts, ça ne vient pas en disant « Tiens, toi, tu fais ça, vas-y, on se met ensemble, on crée une entreprise. »
C'est ça, une phase de formalisation.
Voilà, exactement, ouais. Voilà, c'est ça.
On ne se lève pas le matin en se disant « Bon, ce matin, j'entreprends, voilà,
exactement,
il faut poser le problème. »
J'appelle aujourd'hui pour déposer mon sirette.
Ça demande beaucoup de livrables, beaucoup de travail. Il y en a qui ont des idées de génie direct et qui, en parlant à leur contact, ils ont un grand réseau et puis en 2 jours, c'est... Deux jours, j'exagère peut-être, mais c'est rapidement réglé. Mais là, du coup, c'était l'idée de, pendant plusieurs mois, on accompagne, on développe un projet, on rencontre des acteurs comme des banquiers ou des choses comme ça. On est suivi par des coachs d'autres professionnels. Et en fait, ça nous permet d'avoir plus de recul. Et c'est là que j'ai aussi développé un de mes autres projets. Donc, ce serait une idée de prédiagnostic médical pour réguler les flux de patients. Je pourrais en revenir un peu plus après, si vous voulez. Et du coup, c'est là qu'en fait, je me suis dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément le métier de l'ingénieur à dessiner tous les jours, à faire du design, à dire, bon, voilà, il nous faut, on a une chaîne de production, il faut réfléchir comment améliorer ça ou ça. Et je me disais, ça, c'est trop, on a tête dans le guidon et on suit tous les jours le même rythme. Et j'avais envie d'un peu plus, quelque chose qui m'appelait en dehors des facultés techniques.
Okay,
oui, tout ce qui est le côté humain,
c'est ça, voilà.
Polyvalence, quoi, parce que c'est aussi toutes les activités économiques et tout à gérer.
Parce qu'au final, on a une vision un petit peu des gens qui sont en école d'ingénieur ou même autre, d'un ingénieur, de quelqu'un de très technique, qui est dans le domaine qui est vraiment dans la technique, donc dans la conception de savoir pur, théorique. Et même pratique. Et au final, en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'un ingénieur, c'est pas que ça, en fait. C'est aussi quelqu'un qui est capable de gérer un projet, d'organiser un projet, et même de penser le projet. Et donc, c'est pour ça que tu as choisi la filière MPI, du coup, avec ses expériences. Et du coup, petite question pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on fait dans cette filière, comment c'est organisé, qu'est-ce qu'on y apprend, quels sont les cours?
Et bien justement, du coup, en fait, ces expériences m'ont permis de choisir la filière MPI à travers toutes les filières qui existaient en mécanique, donc que ce soit design ou de la conception ou même, la contrôle qualité, voilà. Et en fait, la MPI, donc c'est une filière transversale qui est offerte à toutes les branches, donc qu'on soit en mécanique, en informatique, en biologique ou en génie urbain. C'est ouvert à tout le monde et tout le monde peut y accéder. Et en fait, c'est littéralement du management de projets innovants. Donc si on a envie d'innover, de gérer un projet qui est innovant pour une entreprise, ou juste créer une entreprise même, c'est la filière entre guillemets qu'il nous faut. Ça va donc nous apprendre des UV comme GE37 en code d'ITC, ce qui signifie donc le management de projet, tout simplement. On a aussi du marketing de l'innovation.
La créativité,
ouais, exactement. Ouais. Et puis, on a aussi même des filières qui ne sont pas forcément en MPI, mais par exemple, DI5, qui est donc l'analyse de la valeur. Donc, c'est une UV donc, de design, pour le coup, qui est plus axée design. Mais en fait, l'approche est un peu différente de la façon où on réfléchit habituellement. Et donc, c'est très intéressant pour un MPIste d'avoir des cours comme celui-ci.
Il y a d'autres UV complémentaires aussi sur, par exemple, le management des ressources humaines ou alors la veille économique et stratégique, donc qui est une activité très importante quand on fait de l'innovation. Donc effectivement, moi-même, je fais la filière MPI et c'est très important effectivement de faire du management quand on veut lancer son entreprise.
Et ce que je trouve avec la MPI, justement, c'est qu'en plus de ça, Bon, il y a donc GE40 et PR. Donc concrètement, ça veut dire que GE40, c'est donc une UV qui développe encore plus la gestion de projet et qui va même amener les... Je n'ai pas encore fait, mais on entend beaucoup parler. Qui va même amener les étudiants à gérer vraiment concrètement un projet en plus des bases théoriques. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a vendu, je ne sais pas si
oui,
tu es d'accord
ça.
Avec moi.
Alors, ouais. Oui, c'est ça. Le vrai plus de la formation MPI, c'est que tous les projets sont avec des vrais porteurs qui ont des vrais besoins. Ce n'est pas des cas d'études qu'on te sort comme ça. Donc, moi, j'ai déjà suivi GE39 et GE40. Donc, c'était vraiment des vrais porteurs qui avaient un réel besoin. Donc, c'est très motivant. Ça fait un petit peu peur parce que du coup, c'est des vrais, c'est vraiment des besoins auxquels il va falloir répondre. Mais c'est aussi hyper motivant parce que à la fin, il y a quelque chose de concret qui a été rendu. T'as rendu service à quelqu'un et je pense qu'on apprend beaucoup avec un vrai porteur.
Ouais, donc c'est vraiment une filière au final assez pratique hein, sur des cas concrets, des vrais projets qui sont menés au sein de l'UTC et autres. Mmh. Et donc, concrètement, je pense que si vous avez choisi cette filière, c'est peut-être que vous avez peut-être un projet derrière la tête. Toi, Charles, tu nous as parlé de ton projet
de... De prédiagnostic médical. Donc, le nom, c'est Prestic, son nom officiel. Et en fait, ce serait donc une... En fait, elle est née donc, il y a 2 ans, donc avant la crise du Covid. Il y avait déjà la crise des urgences, des hôpitaux, où les urgences étaient en grève, mais étaient obligées de continuer de travailler parce qu'il y avait trop forte demande, en fait. Et je me suis rendu compte, en visitant justement un hôpital, qu'il y avait énormément d'attentes. Et en fait, je me suis dit, il y a un souci quelque part. Et en questionnant, en parlant avec les urgentistes, notamment avec des UV de MPI, du coup, on devait faire un projet, et c'était mon projet, du coup. On s'est rendu compte qu'il y avait 70% des patients aux urgences qui n'avaient, je ne dirais pas rien à faire, mais qui n'avaient pas besoin d'être là, merci.
N'était ouais. pas une urgence, en fait.
N'était pas une urgence, exactement. En fait, ils pourraient très bien aller voir un autre spécialiste ou médecin généraliste, et les soins lui conviendraient totalement. Et en plus de ça, une fois que tu es aux urgences, on part du pire cas. Donc, si tu as mal au ventre, on va se dire, ça peut être quelque chose de grave. Et en dernier, on va se dire, c'est finalement peut-être une gastro. Alors que dans un médecin généraliste, ils vont avoir une autre approche. Ils vont se dire, qu'est-ce qu'il y a la plupart des gens ? Une gastro. Donc c'est une approche différente, mais qui a quand même beaucoup de sens, qui crée des retards en toutes sortes, parce que du coup, aux urgences, tu vas avoir des analyses, tu vas faire des radios, tu vas faire des IRM, tu vas faire plein de choses qui vont du coup retarder encore plus la gestion des autres patients. Alors qu'en médecin, du coup, que ce soit un patient qui est mal au ventre ou mal à la tête, peu importe, ça prendra à peu près le même temps. Et donc, l'idée est partie de là. Et c'est de ça qu'on a voulu. Donc, j'ai régulé les flux de patients. Et on a pensé à donc une idée d'application mobile qui permettrait donc aux patients de marquer un peu à la manière de Doximo, mais je prends avec des grands guillemets. Ça se voit pas à la radio, mais j'ai des grands guillemets.
Je vous confirme.
Et en fait, donc, on marque les symptômes. Et l'application ne va pas nous donner la maladie, la raison de pourquoi on souffre, mais plutôt nous donner des conseils sur qui aller voir, quel acteur consulter. Que ce soit donc un médecin généraliste, spécialiste, des urgences, ou même des métiers annexes, ou juste un pharmacien, ou juste un petit repos. Et avec aussi une idée d'urgence, donc dans le sens consulter un médecin sous 2 jours, ou consulter un médecin sous 3 semaines. Et justement, en fait, en donnant des conseils, ça va permettre aux patients de moins s'inquiéter. Si on lui dit, va consulter un médecin sous 3 semaines, il ne va pas se dire, ça tombe, c'est grave, mince, je n'ai pas de rendez-vous chez le médecin, je vais aux urgences. Parce que la plupart des médecins aussi, justement, pourquoi il y a 70% des patients aux urgences, 70% des patients qui n'ont rien à qui pourraient être soignés autre part, qui vont aux urgences, parce qu'ils ont peur.
Parce que les médecins sont...
Ah là, exactement. Les médecins sont blindés. Finalement, on peut contacter les médecins maintenant que grâce à Doctolib ou des secrétaires digitalisés, des secrétariats digitalisés. Et donc, on n'a plus de contact avec le médecin. Et donc, quand on ne se sent pas bien, on se dit, qu'est-ce que je peux avoir ? La personne la plus rapide à contacter pour savoir ce que j'ai, c'est les urgences, finalement. Donc,
une application, en fait, pour fluidifier les urgences et peut-être désencombrer un petit peu les services qui, on le sait, en plus, aujourd'hui, sont un petit peu encombrés.
Submergés, dira-t-on.
Exactement. Donc, en fait... Moi, je ne suis pas dans la filière MPI, voilà, je ne suis toujours pas en filière d'ailleurs, et je me pose des questions, c'est une filière qui pourrait m'intéresser. Et en fait, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'en fait, ça part d'une capacité d'analyse, d'un problème, en fait, d'une problématique pour essayer d'en déduire une solution et donc aboutir sur un projet innovant. Et moi, je voulais savoir un petit peu comment tu, par exemple, au cours d'un stage, comment tu peux, en fait, quel type de poste tu pourrais occuper en entreprise, quel serait ton rôle à terme ou si tu veux te lancer dans toi, dans ton entreprise, enfin, quelles sont un petit peu tes expériences passées dans tes stages et quels seraient tes projets à l'avenir ?
J'ai eu mon T9, donc mon stage d'assistant ingénieur. Là, je viens de le finir il y a quelques mois. Et j'avais comme mission d'être assistant ingénieur d'affaires. Donc en fait, l'ingénieur d'affaires, c'est celui qui prend en charge une commande par un client et qui va au sein du bureau d'études, qui va le faire en sorte de le développer. Donc il va appeler les partenaires, il va régler les soucis s'il y en a, il va parler avec les dessinateurs comment le concevoir au mieux. Il va suivre toutes les étapes de la formalisation en se disant bon bah le client a besoin de ça, donc on va faire ça. C'est assez abstrait finalement, mais en fait ensuite le dessinateur va faire un prototype en 3D sur l'ordinateur. Puis il va le proposer aux ingénieurs d'affaires, qui va le proposer aux clients. L'ingénieur d'affaires fait vraiment interface entre client et entreprise. Et ensuite, l'ingénieur d'affaires, donc une fois que c'est validé, va suivre le projet jusqu'à ce qu'il soit construit et envoyé chez le client, et que le client soit satisfait et que la commande soit finalement terminée.
Donc en responsable au final du projet un petit peu.
Voilà. Totalement, exactement.
Et donc c'est quelque chose qui t'a plu peut-être tu pourrais nous dire dans quelle entreprise tu l'as fait.
Oui, alors je l'ai fait à Bush Vacuum, donc c'est une entreprise à Évry, c'est une entreprise qui crée des systèmes de pompes à vide.
D'accord.
Donc c'est assez mécanique.
Assez mécanique, oui, en effet.
Mécanique.
Ouais.
C'était vraiment, il fallait trouver des systèmes à vide pour que ce soit l'agroalimentaire, par exemple, tout ce qui sont les aliments à vide, finalement.
Pour pressuriser, ce genre de choses.
Ou alors même les appareils respiratoires dans les hôpitaux, en santé, ou pour la recherche en chimie, ou il y a plein de secteurs.
Dès qu'on a besoin de créer du vide,
exactement.
Tu étais là derrière le projet.
J'étais là derrière mon ordinateur. Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Il était prêt à vendre des pompes à vide à tout le monde.
Mais du coup, c'est quoi la différence entre un chef de projet et un ingénieur d'affaires ?
Eh bah, bien, je pense, on a discuté avec justement, et en fait, la dénomination, ça dépend surtout des entreprises pour le coup. Je pense alors, j'étais pas du coup chef de projet, j'étais assistant ingénieur d'affaires, donc c'est encore en dessous l'ingénieur d'affaires. Mais je pense que c'est un changement, ouais, ça doit dépendre des dénominations et aussi des missions qu'encadre le projet dans l'entreprise. Je pense que ça dépend de beaucoup de choses.
Alors moi, quand j'entends ingénieur d'affaires, je pense un petit peu forcément business. Est-ce qu'il n'y aurait pas forcément peut-être une dimension un peu plus commerciale dans l'ingénieur d'affaires que le chef de projet n'aurait pas forcément à mener ?
Alors, c'est même pas, parce qu'en fait, il y a les commerciaux aussi qui justement gèrent tout ce qui est business, donc à vendre le projet, ensuite qu'il l'envoie au bureau d'études et l'ingénieur d'affaires peut prendre le projet une fois qu'il a été proposé au client avec le prix de vente. Et l'ingénieur d'affaires va par exemple chiffrer le projet, mais ça revient aussi donc dans la gestion de projet à faire du chiffrage comme on peut apprendre dans la plupart des cours de management de projet justement.
Et du coup, ce stage a consolidé chez toi l'envie de faire MPI ?
Oui, c'est ça. Ça m'a consolidé dans ce projet. Et en même temps, ça m'a fait ouvrir des voies en me disant qu'il y avait vraiment beaucoup de missions autour du management de projet. Parce qu'avant, j'avais peut-être tendance à trop penser création d'entreprise. Et justement, faire assistant ingénieur d'affaires, je me suis dit, on peut très bien, non pas créer une entreprise, mais créer un projet dans une entreprise et le suivre tout au bout. Parce que par exemple, à Bush Vacuum, j'avais aussi un projet en parallèle donc, dans l'entreprise qui était d'optimiser un processus de dessin. En gros, avant, quand ils reçoivent un dessin, une idée de projet, ils doivent dessiner juste les principes. Donc, par exemple, ici, il y aura une pompe, ici, il y aura un tuyau, etc. Pour faire simple. Et on doit faire ce qui s'appelle un PID. Donc, justement, un dessin de ces tuyauteries. Et c'est assez très schématique. Et sauf que ça prenait beaucoup de temps, alors qu'il devait avoir une trame bien propre, etc. Et que ce soit assez rapide et efficace. Et donc, avec un camarade stagiaire, on a tout optimisé et on est très content de ce qu'on a fait. On a été présenter notre projet aussi aux autres filiales du groupe Bush, donc que ce soit filiale allemande et Pays-Bas. Et donc, ça a eu beaucoup. Les responsables étaient très contents de ce qu'on avait fait. Et on sent aussi justement beaucoup de gratitude d'avoir fait ce projet et on se sent plus valorisé, en fait, je trouve. Quand on maintient un projet, on le chouchoute et on arrive jusqu'à la fin et finalement, tes responsables te disent bah, c'est bien, tu peux le présenter même à d'autres filiales, à d'autres acteurs et ils te disent bah, ouais, c'est intéressant et tout ça.
Il y a le côté un peu gratifiant d'amener exactement, le projet au bout, de le conduire, de le mener de A à Z. Donc peut-être que cette filière se destine aux étudiants ingénieurs de l'UTC qui souhaiteraient peut-être avoir une vision un peu plus globale sur un projet technique, sur quelque chose de... sur un projet en général, pour pouvoir faire le lien entre les différents acteurs, donc les ingénieurs, peut-être les commerciaux qui sont chargés plus de la partie vente, tout ça. Est-ce que toi, Candice, tu te retrouves dans ce projet, dans cet aspect, dans cette vision du métier d'ingénieur que tu aimerais exercer plus tard?
Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, je te rejoins sur le fait que quand on fait MPI, c'est vraiment pour avoir une vision globale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. J'aime pas forcément être sur une seule étape et être un peu la tête dans le guidon. Je trouve ça un peu dommage. Donc, ce que j'aime bien avec MPI, effectivement, c'est qu'il y a la possibilité de faire naître son bébé et de l'amener jusqu'au bout, donc selon la durée de la mission. Mais moi, en stage, j'ai eu un peu quelque chose de similaire. En fait, j'ai travaillé chez Orange où j'ai été chargée un peu d'introduire l'éco-conception au sein du pôle. Donc l'éco-conception en informatique, ça va être essayer de réduire l'empreinte écologique des applications qui sont produites. Et c'était un truc totalement nouveau. Donc en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai d'abord mené l'état de l'art, l'étude exploratoire, et ensuite je leur ai dit j'ai trouvé ce résultat-là, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, j'étais qu'assistante ingénieure, donc ils ont quand même décidé de quelques trucs, mais après, quand ils ont décidé qu'on allait faire des tests sur une appli, c'est moi qui ai géré un peu l'ensemble de l'étude pour ensuite présenter le résultat à la fin. Et là, je te rejoins, Charles, c'est hyper gratifiant quand tu dis, oh là, au début, j'ai commencé un truc, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a ça, quoi. C'est pas forcément terminé, mais je peux refiler le bébé. Je suis quand même fière de ce que j'ai fait. Donc vraiment, cette vision globale où on touche à la fois un peu à la technique, mais aussi des jeux d'acteurs où on peut faire de la sensibilisation, on peut recueillir le besoin des clients, donc qui, dans mon cas, étaient mes collègues. C'est vraiment... ça fait vraiment de quelqu'un qui fait MPI une formation assez complète.
Donc en fait, c'est peut-être... je ne connais pas bien le fonctionnement des autres écoles d'ingénieurs. Est-ce que ça serait une force de l'UTC de pouvoir préparer à quelque chose d'un petit peu moins technique, d'un peu plus global, d'une vision un peu plus de gestion au final au sein de l'entreprise?
Oui, mais je pense que de base, l'UTC a quand même un avantage sur d'autres écoles puisqu'elle a beaucoup misé sur les TSH, donc les sciences humaines. Et on en parlait au début, actuellement, on a un peu la vision de l'ingénieur scientifique un peu hyper fort en sciences, alors qu'on oublie trop souvent que l'ingénieur, c'est un créateur, c'est pas celui qui fait de la recherche pure. Et du coup, ses créations, elles vont s'insérer dans la société. Donc, il y a tout un aspect socio-économique à prendre en compte qui, je pense... est quand même assez bien maîtrisé à l'UTC avec les TSH et qui est encore plus appuyé dans la filière MPI.
Je vais rebondir sur ça. Mon chef de projet, dans mon stage, me disait que tous les ans, il prenait seulement des stagiaires UTC1 parce qu'il trouvait il avait déjà pris des autres stagiaires, mais il trouvait que l'UTC avait cette particularité que tous les étudiants, peu importe leur filière, avaient cette capacité de réagir, d'avoir une réaction, en fait, de s'adapter à toutes les situations, que ce soit... peu importe qu'ils soient dans la difficulté, qu'ils ne sachent pas sur quoi ils travaillent, ils vont toujours réussir à s'adapter, à comprendre les enjeux et à mener à bien leur mission. Finalement.
Parce qu'au final, les capacités d'adaptation, adaptabilité, ce ne seraient pas un peu les maîtres mots pour un ingénieur au final. Un petit peu. Donc voilà, ça a l'air très très intéressant. Moi, j'ai une petite question, donc peut-être s'adresse plus à Candice parce que tu es ingénieur informatique comme moi. Par exemple, moi, en fait, c'est une filière qui m'intéresserait. Je me suis peut-être projeté aussi un peu en MPI, mais j'aime beaucoup cet aspect technique. Enfin, peut-être, si je peux me permettre l'expression, j'aime bien mettre un peu les mains dans le cambouis, donc tout ce qui va être code, donc partie vraiment dimension technique. Est-ce que la filière management de projet innovement, donc même au sein de l'entreprise, te permet quand même de garder quand même un vrai contact avec ta formation de base technique et de pouvoir quand même faire du code ou ce genre de choses.
Alors, je pense que ça dépend vraiment de l'entreprise que tu choisis et du secteur, parce qu'en MPI, tu vas avoir des connaissances un peu transversales que je pense tu peux appliquer à tous les domaines. Donc, si tu veux un truc plus lié au management des ressources humaines ou quoi, tu peux t'éloigner complètement de ta branche. Après, tu peux aussi avoir quelque chose où tu as plus les mains dans le cambouis, parce que ça peut dépendre aussi de la taille de l'entreprise. Quand tu as 250 000 employés, généralement, on le sait tous, il y a des petites cases, etc. Mais quand c'est des plus petites structures comme des PME, généralement, les personnes, elles ont une double casquette. Et quelqu'un qui sera chef de projet, donc qui sera amené à faire du management, généralement, il a une compétence technique derrière qu'il peut être amené à utiliser au quotidien. Donc moi, j'ai l'exemple d'un ami qui a fait son stage. Et son tuteur, en fait, était un peu le manager de l'équipe, mais en même temps, tous les jours, il faisait de l'informatique, il continuait à mettre ses mains dans le cambouis, parce que la structure était petite, je crois qu'ils étaient 10-15 personnes.
D'accord, donc en fait, un aspect un peu plus management, mais bien sûr, en fonction de la structure, on peut rester dans le domaine technique et toucher toujours un petit peu à ce qu'on apprend dans des matières un peu plus classiques, enfin, qui font partie de notre branche, cette fois-ci, et pas de la filière. Et donc, maintenant, on pourrait peut-être un petit peu parler de la poursuite d'études qui pourrait s'ouvrir à vous en tant qu'étudiant en filière MPI. Je ne sais pas si vous y avez pensé, peut-être ou pas.
Si, c'est justement un grand débat.
Un grand débat.
Parce que justement, c'est ce que je disais par rapport au projet tout à l'heure. J'ai plein d'idées de projets à mettre en œuvre. En fait, mais une entreprise, ça se crée pas en claquant des doigts. Il faut souvent des fonds, tout ça. Des fonds qu'en étant étudiant, on n'a pas forcément. Donc, il y a beaucoup d'aides qui sont utilisées, qui existent pour ça. Mais il y a aussi un risque, parce que il y a beaucoup d'aides qui sont des prêts, par exemple, pour des prêts. Donc, si ton entreprise cesse, il faut savoir réagir derrière, et ton compte en banque risque d'avoir un peu mal, quoi.
Donc il y a un investissement personnel, financier et de temps, enfin de mais évidemment, c'est donc c'est vrai que oui.
Parce qu'en France, quand même, il y a quand même moins la culture d'entreprise que par exemple aux États-Unis, et du coup tout le processus est moins bien soutenu, tu vois. Aux États-Unis, ils vont pas hésiter à donner de l'argent, ils s'en fichent si ça se casse la gueule et tout, alors qu'en France, vu qu'on a un peu plus cette culture du risque, tu as à la fois les investisseurs qui peuvent être frileux, enfin plutôt les banques, et après même nous, tout à l'heure tu disais, du coup, est-ce que quand on a un pays, on a des grandes idées? Des fois, j'ai déjà eu des bonnes idées, puis contrairement à Charles, je vais jamais au bout, parce que je pense qu'on a un peu cette culture du risque de se dire, de toute façon, ça va pas marcher.
Mais il faut tenter, Candice, il faut tenter.
Mais du coup, oui, je pense que c'est pour ça, pour toi, Charles, ça peut faire peur, ça peut être compliqué. Le financement, c'est...
Oui, c'est une grande partie dans tout ce qui est création d'entreprise. Exactement. Je pense que ouais, chercher
en fait,
des fonds.
En tant qu'étudiant, le meilleur profil pour justement innover et créer une première entreprise, c'est en tant qu'étudiant, parce qu'on a beaucoup d'aide, on a beaucoup d'entreprises, ou plutôt des associations qui nous aident à accompagner nos projets. Et moi, je suis assez fan de ça, j'en fais souvent. Ça dure souvent 6 mois, 5 mois, ou même des fois seulement un week-end. Et tu es amené à travailler justement sur des projets ou avec des gens qui vont accompagner ton projet. C'est assez vraiment divers. Et ça aide à formaliser donc tes idées et à même peut-être les concevoir. Et c'est notamment comme ça qu'à la fin, on peut obtenir le titre d'étudiant entrepreneur ou des choses comme ça.
Donc titre d'étudiant entrepreneur que tu possèdes?
Depuis peu. depuis février, oui.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est?
Oui, alors en fait, l'étudiant entrepreneur, c'est une candidature donc, qui est faite à Pépite. Donc, c'est une organisation justement qui accompagne les étudiants qui ont envie d'entreprendre. Et en fait, l'étudiant entrepreneur, c'est un étudiant qui entreprend, comme son nom l'indique, qui entreprend tous les jours. Et le statut lui permet donc de se faire accompagner, d'avoir accès à des formations qui sont parfois seulement dédiées à des écoles ou juste des réunions ou des groupes. Là, l'étudiant entrepreneur peut y avoir aussi accès. C'est souvent d'ailleurs très intéressant, même pas forcément juste pour entreprendre, mais d'un point de vue général, comme par exemple comment on manage des ressources humaines. Donc c'est très axé création d'entreprise, mais ça peut être aussi utilisé dans tous les jours, dans tous les projets finalement. Et on a aussi accès à des événements de temps en temps et surtout des locaux qui sont très utiles, notamment quand on veut commencer à se développer, qu'on veut commencer à travailler avec une équipe. Il faut, au bout d'un moment, il va falloir un local où pouvoir travailler, pouvoir stocker. Et surtout des conseils d'experts et de coachs qui nous suivent vraiment H24. Dès qu'on les contacte, ils sont disponibles. Et c'est très intéressant. Mais en plus de ça, on est en contact aussi avec les autres étudiants entrepreneurs. Donc on peut apporter des conseils et des aides. Par exemple, moi, j'ai fait ça pour mon projet. Ah, ça, c'est une mauvaise idée. Parce qu'après, tu vas avoir un contre-coup, tu vas avoir un risque. Et en fait, on apprend mutuellement parce que je trouve que l'entrepreneuriat, c'est avant tout de l'expérience. Il y a beaucoup de bases théoriques, comment on gère un projet, tout ça, mais pour bien connaître les risques du terrain ou la réalité, tout simplement, et bah, ça demande beaucoup d'expérience.
Oui, c'est un équilibre entre prise de risque, considérée, voilà, parce qu'il ne faut pas non plus se mettre en danger.
Exactement, ouais.
Et puis aussi savoir aussi se lancer et aller au bout de ses idées. Donc c'est quelque chose de, enfin moi que je trouve que je respecte beaucoup puisque peu de gens on se lance pour aller au bout de leurs idées quoi.
En vrai le plus dur c'est de se donner un coup de pied aux fesses quoi. C'est juste de se dire vas-y on y va et puis en fait de fil en aiguille on se dit ah, bah c'était cool vas-y je leur ferai bien et puis une fois on est lancé et puis c'est parti quoi.
Donc le conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient
foncez, allez-y, c'est gratuit, surtout quand on est étudiant, c'est gratuit, c'est une énorme, certes ça va prendre un peu de temps mais c'est hyper gratifiant que ce soit personnellement ou même juste si vous pensez au CV, c'est pour le CV, pour vos futures entreprises, c'est hyper gratifiant, allez-y foncez.
Mais du coup c'est hyper important que tu sois là aujourd'hui pour en parler parce que c'est vrai que quand on est jeune et qu'on est étudiant comme ça, je pense qu'on peut se sentir un peu seul et qu'on pourrait avoir peur.
Donc, oui, totalement, ouais. C'est, ouais, je sais,
oui,
vraiment
puis c'est,
l'idée de se perdre.
Je trouve que, enfin, c'est une filière qui commence maintenant à se développer, qu'on entend parler, mais moi, en arrivant à l'UTC, j'avais pas entendu parler de... Bon, ça fait déjà 3 ans que je suis là, mais j'avais pas entendu parler de cette filière. Et c'est bien que tu sois là pour nous en parler, parce que, bon, on est des fois un petit peu perdu, on sait pas ce qu'on veut faire, déjà même dans notre domaine technique... qui est des fois vaste, on ne sait pas si on, enfin en mécanique, si on veut faire de la conception, ouais. Du design, tout ça. Alors des fois on pense même pas à ça et ouais, c'est bien d'être au courant, de le savoir et d'avoir des conseils d'un entrepreneur qui a eu la gentillesse d'ailleurs de venir répondre à nos questions aujourd'hui et de nous partager un peu son expérience. Vraiment, on te remercie pour ça.
Bah, c'est super. C'est vraiment sympa de pouvoir échanger comme ça et puis de pouvoir apporter un peu d'expérience aux gens qui sont intéressés quoi.
Et du coup, moi je me demandais. Tous ces conseils, tout ce temps apporté à ton projet, forcément, c'est beaucoup de temps et d'énergie. Est-ce que tu bénéficies d'un emploi du temps aménagé ou est-ce que tu arrives à tenir la cadence
Tu fais bien en parler, en fait. En étant étudiant entrepreneur, donc, j'ai aussi le droit de demander à intégrer l'entrepreneuriat élite de l'UTC. Et donc, cette combinaison me permet notamment d'aménager des semestres. Donc, au lieu d'avoir des semestres à 6 UV, j'aurai des semestres à 5 UV. Alors en ce moment, c'est déjà des semestres à 5 UV à cause du Covid, je sais. Mais normalement, un jour, quand ça reviendra à la normale, je pourrai bénéficier de cet avantage. Et en plus de ça, au lieu de faire un stage de fin de cursus, donc un TN10, en entreprise, on peut bénéficier de réaliser son stage dans sa propre entreprise, même si elle n'est pas encore... Alors je ne sais pas, je pense qu'il faudrait encore se renseigner, je ne me suis pas renseigné par rapport à ça. Mais on peut réaliser son stage pour développer son entreprise et son projet. Alors la question c'est est-ce que l'entreprise doit déjà exister ou non? Il faut se renseigner.
Et de ton côté, les entreprises existent ou tu es encore dans la phase de formalisation?
Alors de mon côté, j'aime beaucoup donc entreprendre et en fait à chaque fois qu'on me dit tiens il y a un accompagnement de 6 mois là pour aider une entreprise à développer tel projet parce qu'ils ont un souci, et bah, je vais avoir tendance à y aller. Et donc à mettre mes projets perso un peu de côté, mais ça me plaît de faire ça, donc c'est pas plus mal et ça
m'apporte. Tu gagnes toujours. En expérience.
Et c'est exactement ce que je veux dire. Et puis je gagne en expérience, en connaissance et en réseau. Je gagne beaucoup de réseau, ça c'est hyper important aussi pour quand on est étudiant entrepreneur. Et donc là le projet il est pas encore, c'est pas encore une entreprise. Et au contraire donc moi je suis en IM et le projet c'est une application mobile. IM, application mobile, ça sonne pas ensemble. Donc, je suis à recherche de personnes en GI ou juste qui aiment coder pour justement développer ce projet et avoir des prototypes un peu plus développés et commencer à trouver des fournisseurs, à construire tout un réseau autour.
Je pense qu'en vrai, tu trouverais sans souci parce que ton idée d'application est hyper intéressante. Ça fait appel aussi à tout ce qu'on peut voir en IA1, donc qui est une UV d'intelligence artificielle. Pour les systèmes experts, si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais je pense effectivement qu'une collaboration avec les GI, ça pourrait être hyper enrichissant.
Ah bah, merci pour ce conseil, du coup, parce que ouais, là, du coup, j'ai fini un truc d'entrepreneuriat il y a même pas un mois, donc je me prends un peu de vacances avec le début des médians là, qui vont bientôt arriver, et puis après les médians, je leur donnerai un petit coup de fouet au projet. Et donc, j'irai sonner chez les GI, alors.
Oui, pas de souci. Bon, on sait tous très bien que les IM sans les GI ne sont rien. Mais l'inverse n'est pas vrai. Non, je rigole.
Alors, on se calme, je suis parti pas en débat.
Voilà, petite trêve de plaisanterie. Et non, mais on te souhaite bon courage dans ton projet, dans la continuité. Et appel à tous les codeurs qui nous
appel
écoutent.
Appel à candidature.
Voilà, si vous maîtrisez un petit peu Java, tout ça, React, et faut pas hésiter, contactez Charles. Et,
vous serez payé en visibilité.
Voilà, voilà. Vous aurez une ligne de plus sur votre CV.
C'est ça.
Et du coup, je rebondis sur le réseau. C'est vrai que c'est une notion, on en avait parlé au début, on avait dit que c'était compliqué sans réseau, là tu viens de redire que c'est compliqué sans réseau, et du coup comment tu fais pour te le créer, te le maintenir, ça peut paraître un petit peu flou comme ça.
Alors je pense que l'idée de maintenir, je ne maîtrise pas encore, mais l'idée de créer c'est plutôt finalement simple, en fait à chaque fois qu'on a l'occasion de faire quelque chose d'entrepreneuriat, de rencontrer des gens, de discuter, de poser des questions, bah, il faut y aller. Et ça peut paraître tout bête, mais juste une question, en fait, la personne va avoir le nom en tête. Et ça va permettre donc de le marquer, et puis un jour, on recontacte parce qu'on s'en est coordonné, et puis on peut échanger. Et c'est, en fait, derrière réseau, on entend surtout les éléments que les personnes peuvent t'accorder. Alors, ça peut paraître un peu égoïste ou des choses comme ça, mais c'est aussi avant tout un échange humain. C'est pas forcément des qualités entrepreneuriales que la personne t'apporte, mais c'est aussi des qualités humaines, une vision de voir les choses, puis juste d'une manière générale débattre, échanger avec quelqu'un, ça peut te permettre de gagner en maturité sur ton projet et juste sur ta manière d'être et de travailler en tant qu'entrepreneur, quoi.
Oui, donc c'est des échanges, c'est des rencontres qui font que tu en apprends, tu apprends de l'expérience des autres pour te construire ta propre expérience à toi, et ça te permet de voir peut-être plus clair dans ton projet, d'éviter certaines erreurs, et puis peut-être d'en faire aussi par toi-même pour apprendre de tes erreurs et transmettre plus tard à ceux qui souhaiteraient aussi se lancer dans un projet.
Ah oui, c'est ça, c'est vraiment... on s'apporte mutuellement, et que ce soit moi qui fasse des erreurs et que j'apprends aux autres, ou que c'est les gens qui m'apprennent à moi, c'est ça, c'est l'idée du réseau, de tout le monde interconnecté, tout le monde s'apporte des choses.
Moi, j'ai une petite curiosité. Imagine, dans ton réseau, t'as deux sons de cloche différents. Du coup, tu fais comment pour, pour savoir quelle décision prendre
Ça arrive souvent. Et justement, du coup, s'il y a deux sons de cloche différents, ça veut dire que c'est on peut classer ce sujet comme risque, dans le sens où il va falloir porter plus attention, créer un plus gros argumentaire derrière, et pour pouvoir le défendre, pour pouvoir se dire, moi, mon idée, c'est ça. Et si t'as des doutes, on peut toujours créer des enquêtes, genre enquêter auprès des gens, voir ce qu'ils en pensent. Et s'il y a toujours justement une polémique, c'est faire un pas de côté. Et je vais reparler de l'IVDI5, du coup, analyse de la valeur. On fait un pas de côté et on regarde quelles sont les origines du problème, pourquoi ça pose problème finalement, et comment résoudre ce problème. Est-ce que finalement c'est vraiment un problème, ou est-ce qu'on pose mal la question et du coup... finalement, l'idée est tout autre, et c'est juste un problème de compréhension et d'échange.
C'est vrai que parfois, il suffit de reformuler la question pour se rendre compte que toute une autre vision qu'on n'avait pas envisagée.
C'est ça, parce que souvent, on s'entête à des solutions, alors que finalement, il y a beaucoup plus simple. Ça arrive dans la vie de tous les jours. Par exemple, quelqu'un te demande une chaise et t'as pas de chaise. En fait, c'est assez simple comme idée, mais dans le sens, le pas de côté, c'est du coup, il y a quoi ? Il y a un pouf, il y a un bidon d'eau, tu lui files pour que ça soit...
Oui, savoir anticiper, exactement. Trouver des solutions.
Penser à pas forcément solution, juste la chaise, mais qu'est-ce qu'il va en faire ? Et bon, la chaise, c'est une idée tout simple, mais ça peut être beaucoup plus complexe sur des sujets plus problématiques, comme, je sais pas, y a quoi en projet ? Par exemple, sur la sécurité en ville, sur le sentiment d'insécurité. Est-ce que le problème, c'est le sentiment d'insécurité ou c'est le nombre d'agressions ou c'est juste l'aménagement de la ville qui fait peur parce qu'il n'y a pas assez de lumière ? Tu vois, c'est des questions.
Oui, donc une vraie question sur la mise en lumière du problème.
Exactement.
Et donc le décortiquer pour essayer d'en déduire une solution, donc, que ça soit la meilleure ou pas, adéquate ou pas, en fonction des moyens qu'on a de la situation dans laquelle on se trouve. Donc bah, ça nous rappelle quand même vachement le travail d'ingénieur, ça, ce que tu nous dis ici. On est quand même en plein dedans. Donc voilà, c'est une autre vision du métier d'ingénieur que tu nous exposes ici. Très intéressant.
Oui. Traiter les causes du problème plutôt que les symptômes.
C'est ça.
Intervenir en amont.
Bah écoute Charles, on te remercie d'être venu sur la radio Brute.
Merci à toi vraiment pour cette expérience, ce partage. C'est super sympa d'être venu dans notre studio.
Je vous remercie. En plus, on a pu échanger. Et puis, comme je dis, du coup, c'est le réseau qui se crée.
Et bah, pas de souci.
Et puis, échanger, c'est toujours un honneur.
Voilà, tu auras peut-être donné des vocations à certains qui vont s'inscrire en filière MPI prochainement.
On vous attend.
Voilà. Oui, rejoignez-nous. Et d'ailleurs, si vous avez des questions, tous les semestres, M. Gidel présente la filière. Et ensuite, il peut répondre par mail. C'est quelqu'un de vraiment adorable. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner ou même à nous contacter. Nous, personnellement, je peux répondre à vos questions.
Oui, pareil, il n'y a pas de souci.
Tous les anciens étudiants sont hyper ouverts. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur la filière, sur l'entrepreneuriat élite. Et à entreprendre si vous avez de belles idées.
Parce qu'on vient aussi à l'UTC pour ça.
Oui, donnons un sens à l'innovation.
Voilà, ça prend tout son sens.
Voilà, c'est beau de finir sur cette phrase.
Voilà, on finit sur cette belle phrase, ce beau slogan de l'UTC. Oui. Et on vous remercie d'avoir écouté notre émission. On remercie encore une dernière fois Charles d'être venu nous présenter son projet.
Merci beaucoup, merci.
On remercie également Graphite pour toujours le prêt des locaux, le prêt du créneau. Et puis on n'hésite pas à aller mettre un petit pouce sur Graphite, sur Bruit, tout ça. Voilà. Ciao à tous.
Ciao.
Bonne journée à tous.
Bonne journée à tous. Well, pick me up with golden hand. Oh, me say, oh, me tell you to run. Oh, boy. Nobody say, nobody on. See me.
Tell you to run. On my way, on my way. I'm gonna see my buddy on.